L'Esprit Saint nous dit donc, si quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Et si nous savons faire le bien, nous sommes de fait exhortés à mettre en pratique. La vie chrétienne est une manifestation, une incarnation dans les gestes, les actes. La vie ne se résume pas à des paroles et des prières, pardonnez-moi, mais la vie chrétienne ne se résume pas à des paroles et à des prières. C'est une vie d'actes qui est arrosée par la dimension de la prière et de la parole qui habite en nous. Vous comprenez, hein, j'ai fait une nuance, c'est-à-dire que je ne peux pas faire des œuvres sans que ça soit arrosé par la prière. Parce que va le faire avec tes œuvres, tes petits bras musclés, tu n'y arriveras pas. C'est parce que ta vie est arrosée par la prière et par la parole incarnée que tu peux le faire au nom de Jésus. Mais si tu le fais avec tes propres forces, ben, tu vas vivre que des frustrations, tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser, tu vas dire « je n'y arrive plus, je suis au bout du bout ». N'est-ce pas ? Parce que tu ne l'as pas fait avec Jésus, parce que tu ne l'as pas associé dans ta conduite et dans tes actes. Or, le Seigneur nous invite à nous laisser pétrir par la vie de l'Esprit Saint en nous, au-dedans de notre cœur. Alors nous sommes plus légers pour le faire. Et le Seigneur ouvre des perspectives, ouvre des portes. Et les choses sont beaucoup plus faciles à faire, à engager, parce que nous ne l'avons pas fait avec nos propres forces. Arrose tes actes de prière. Arrose ta vie de prière. Et les gestes, eh bien, produiront du fruit. Ton arbre portera du fruit. Et Jésus le dit, beaucoup de fruits. Jacques fait une objection à notre orgueil, à cette prétention de savoir et de ne pas mettre en pratique. Ne nous disons-nous pas, oh, c'est un enseignement qui ne nourrit pas, toutes ces choses, je les sais. Vous avez raison, les Écritures bibliques énoncent des vérités que nous connaissons. Nous les connaissons. Et on peut dire, ah, ce rabat-joie, il revient toujours sur le même chapitre, il revient toujours sur la même chose. Mais il ne suffit pas d'écouter. Il ne suffit pas d'adhérer. Ce qui importe pour nous, c'est que la vie, le vécu, doivent suffire à enseigner tout homme. Nous étions en soirée avec Romain, avec Sabine, Lorraine et le beau-papa, Jean-Marc. Et nous avons passé du temps ensemble. Et c'était d'autant plus facile, je dirais, à parler finalement de notre foi sans être dans le rabâchage, sans être dans les paroles de canon, tout simplement parce qu'il faut aussi être accessible dans ce que nous disons. Mais quand Romain nous invite à prier devant son beau-père, qui nous voit pour la première fois, et il n'y a pas eu de difficulté parce que nous étions en acte dans l'après-midi. Donc son cœur était réceptif à la prière, et il n'a pas été choqué. Et ça a été beaucoup plus facile ensuite de partager. Quand on est en acte, on se rend d'autant plus visible parce qu'il y a la manifestation de l'amour incarné. Et quand j'exprime et je confesse ma foi en Jésus, c'est naturel. Souvent, les chrétiens font précéder leurs paroles avant leurs actes. Je dis, c'est une nuance, parfois vous pourrez être conduit à parler avant que les actes ne soient visibles. Mais quand vous avez agi, alors vos paroles, votre parole va devenir pleine de sel. La parole va être assaisonnée. La lumière, c'est au travers de vos actes, parce que vous êtes différents. La lumière, elle vient du fait que vous annoncez parce que vos actes ont été présents. Vous comprenez ? Chaque jour que le Seigneur va faire cette semaine, pensez à faire du bien. Alors, C'est le Saint-Esprit qui nous envoie. Nous sommes d'accord, hein ? Ce n'est pas nous qui allons nous envoyer, c'est le Saint-Esprit en fonction de nos disponibilités, parce que le Seigneur sait que tu travailles. Le Seigneur sait que tu as ta maman dont il faut s'occuper. Le Seigneur sait qu'il y a ta vie professionnelle qui est prenante et qui phagocyte toute ton énergie. Mais là où tu seras, le Seigneur va t'utiliser. Et c'est bien auprès de ta maman qu'il va t'utiliser et t'employer. C'est bien auprès de tes collègues que le Seigneur va t'utiliser et t'employer. C'est là où est le sel. C'est là où est la manifestation de la lumière. Tu ne pécheras pas dans ton travail, mais tu seras là en acte et avec des gestes que tu vas poser et qui vont toucher le cœur de ceux qui t'environnent. Savoir n'est pas difficile, mais ce savoir même doit nous rendre d'autant plus attentifs et plus conscients de la nécessité de prolonger ce qui est enseigné, donc par la mise en pratique. N'est-il pas écrit dans l'évangile de Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui à seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ou bien dans l'évangile de Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ?» Et ne faites-vous pas ce que je vous dis. Et enfin, dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 17. Écoutez bien, évangile de Jean, chapitre 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Amen. Vous êtes heureux. Mais pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Ne pensons-nous pas, et ne sommes-nous pas plusieurs d'ailleurs à le penser, que péché finalement consiste seulement à ne pas faire le mal? Mais Jacques, en partageant cette parole, il va beaucoup plus loin. Si quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. En d'autres termes, oui, c'est une bonne chose de ne pas faire le mal. Mais voici, le Seigneur attend de toi que tu fasses le bien, que tu le recherches, que tu le pratiques. Tu fais bien, en effet, par exemple, de ne pas mentir. Mentir est en effet un péché, on est d'accord, hein ? Le mensonge blesse toujours, attriste et peut conduire la personne à ne plus faire confiance, on est d'accord. Et il vaut mieux confesser que voiler ou cacher. Qu'en apprenant ce que tu caches, tu suscites une immense déception et souvent de la colère. Mentir, c'est donc un péché. Mais connaître la vérité et la cacher est également un péché. Connaître la vérité et cacher cette vérité est également un péché. Ne pas révéler la vérité à une personne qui peut s'égarer peut rendre notre silence coupable. N'est-il pas écrit que nous ne devons pas nous taire ? Dans Ézéchiel 3, 17, « Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. » Parfois nous n'osons pas. Mais le Seigneur nous demande d'ouvrir notre bouche et nous presse de le faire, car nous pouvons sauver une vie et même plusieurs vies. Car qui sait si tu ne sauveras pas une vie et que d'autres vies ne soient sauvées ? Et très intimement, hier, dans ma conversation, je me dis, mais le Seigneur veut sauver non seulement Lorraine, non seulement Romain, mais veut sauver aussi toute sa famille. Donc, ne nous taisons pas. Autre chose, évitez un frère, un ami, une sœur. Évitez, hein, dans le sens, je sais qu'il a des besoins, je ne vais surtout pas aller à la rencontre de ce frère, de cette sœur, parce que je sais qu'impertinemment, il va me solliciter. Vous savez, hein, là, qui est coupable ? Je le suis. Je sais pertinemment que si je vais le rencontrer, je vais être immédiatement sollicité. Il va y avoir de la mise en pratique tout à l'heure. Amen. Parce que vous allez être sollicité. Amen. Et il va falloir répondre, bah, « Oui, Seigneur, je vais faire le bien. Et je le fais pour toi parce que je le fais pour Jésus. » Amen. Parlons pas inutilement, soyons dans le pratique, pratique, parce que le Seigneur nous attend dans les actes. Évitez d'aller à la rencontre de l'autre qui vous partagera son besoin. Éviter est donc un péché, et nous le savons intérieurement. Et ce que je partage vous bouscule, me bouscule, et je vous l'ai dit et je vous ai confessé qu'il m'est arrivé d'éviter pour ne pas être sollicité. Aussi, c'est pour ça que le Seigneur a sans doute poussé fort. Et je parle des impulsions de l'Esprit Saint. Lorsqu'il nous invite à aider quelqu'un, lorsqu'il nous invite à aller visiter, lorsqu'il nous impulse à restaurer, lorsqu'il nous impulse à reconstruire une relation, n'hésitons pas à le faire. Faisons-le. Ne reportons pas au lendemain ce geste qui est attendu par un frère. Et notre foi s'en retrouvera renouvelée. Notre joie grandira car nous aurons alors suivi l'Éternel et obéi à son commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, Matthieu 7, 24, et c'est Jésus qui parle, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison. Sur quoi ? Sur le roc. Mettre en pratique et demeurer dans la parole, c'est-à-dire être revêtu, être habité par Christ, c'est une porte ouverte à la manifestation de la présence tangible de Dieu dans nos vies. Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Aimer mettre en pratique, c'est au fond garder sa parole. C'est demeurer en Christ, c'est manifester Christ. Il ne s'agit donc pas d'aimer en parole, mais nos gestes et nos actes nous appellent à rechercher le bien. Amen. Galates 6, 9, 10 que nous aimons lire. Ne nous lassons pas, Galates 6, 9, 10. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à qui ? Tout le monde. Faisons du bien à tout le monde. Et en premier lieu, ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Ainsi, il ne s'agit pas de se relâcher, mais de rechercher le bien. Et la recherche du bien doit être une partie de nous-mêmes. C'est ce que j'aime à dire, l'ADN de tout disciple, désireux de plaire à celui qui l'a enrôlé. Car qui nous enrôle ? Qui avons-nous décidé de suivre ? C'est Jésus. D'accord ? Nous ne suivons pas une doctrine, nous ne suivons pas un dogme, nous ne suivons pas une religion, nous suivons Jésus. Et Jésus, il veut habiter pleinement en nous. Et nous faisons du bien, pourquoi ? Parce que Jésus nous a fait du bien. Amen. Je vois tous les témoignages qui ont été donnés ce matin, et même ceux qui n'ont pas été communiqués, eh bien le Seigneur a fait du bien cette semaine. Amen. Même si nous sommes las, même si nous sommes fatigués, le Seigneur a fait du bien. Faire le bien, c'est accomplir des actes concrets d'amour. Ce n'est surtout pas refaire le monde, tout en restant assis, vous savez. C'est facile de refaire le monde en restant assis, hein. Oui, Michel, refaire le monde en restant assis. Hein ? Débattre dans les cafés et refaire le monde. Là, ils sont de multiples. Hein ? Mais refaire le monde en transformant sa propre vie et en faisant du bien aux autres, ça, c'est une révolution. Et c'est la seule révolution qui vaille. C'est la réforme de soi-même. C'est la conversion de soi-même. C'est dire, Seigneur, tu agis au-dedans de moi. Tu me mets en acte. Tu fais que toute cette semaine, il y ait des gestes concrets qui manifestent l'amour de Christ. C'est notre intimité vécue avec Christ et vécue avec le prochain qui toucheront le cœur de Dieu. Celui qui ne m'aime pas, a dit Jésus, ne garde pas mes paroles. Donc vous allez garder ces paroles si vous aimez Jésus. Si vous ne l'aimez pas, vous ne garderez pas ces paroles. Ou si vous dites, ah ben c'est super, ces belles paroles que nous avons eues ce dimanche, nous avons été bénis, mais que nous ne mettons pas en pratique. Nous péchons. Mettre en pratique l'amour, c'est la clé, mes amis, pour connaître Dieu, pour avoir une révélation profonde de Christ. 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Donc nul ne peut dire « je n'aime pas mon frère » mais j'aime Dieu, c'est juste impossible. Donc le Seigneur nous... Ah. Ça, c'est de l'amour. Amen. Oui, c'est de l'amour. Amen. L'amour du proche, l'amour du prochain. J'ai toujours cette nuance. Hein. Je pense toujours à cette parole, lumière dans la lumière, ça ne sert à rien, mais lumière dans les ténèbres, c'est beaucoup plus. Ça, je crois que ça va rester, ça va me marquer en 2019. Je crois que je vais la redonner en fin 2019. Si, le Seigneur prête vie. L'amour du proche comme du prochain, c'est le secret de la vie abondante. C'est le secret pour avoir des exaucements, de prières spectaculaires. Jean 15, 7. Pardonnez-moi, j'ai donné beaucoup de paroles, mais je crois qu'il fallait que la prédication soit fondée sur les Écritures. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous voulez l'accomplissement de projet, l'accomplissement de vos prières, demeurez en Jésus. Et demeurer en Jésus, c'est mettre en pratique sa parole. C'est ne pas seulement l'écouter. C'est le secret du véritable bonheur et sens que nous pouvons donner à notre vie chrétienne. Je vous renvoie à ce psaume 1, du verset 1 au verset 3. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. L'obéissance à la parole de Dieu fera de toi un ami de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu fera de toi un ami de Dieu. Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis. Et c'est Jésus qui nous parle, si vous faites ce que je vous commande. Amen. Merci Père.
Amen. On va fermer les yeux.